Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 15 novembre 2021. Il est 20h et comme tous les lundis, on joue la prolongation. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont joue la prolongation. Une émission qui va être consacrée en partie aux éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. La Coupe du Monde 2022 qui commencera, soyez au courant, dans 371 jours précisément, exactement. Le match d'ouverture aura lieu le 21 novembre 2022. On va parler de ça, on va parler sport mécanique aussi parce qu'on a eu un beau week-end en moto, les adieux de Valentino Rossi. Et en Formule 1, un super Grand Prix qui a vu la victoire de Lewis Hamilton devant Max Verstappen et un championnat du monde relancé à 3 courses de la fin. Ce soir, avec moi, j'ai décidé de ne pas passer d'hymne, puisque ce soir, vous n'êtes pas les supporters d'Anderlecht, du club de Bruges ou autre. J'aurais pu passer la Brabanson, cela dit, mais non. Donc ce soir, avec moi Henri Daniel, salut Henri.
Bonsoir, au moins cette fois-ci on n'a pas perdu.
Voilà.
Il parle d'Anderlecht, j'imagine.
J'imagine, bon, ne fais pas trop le... Et vous aurez reconnu sa voix, sans doute, Didier Cohn, salut Didier.
Salut Sam, salut Henri.
Salut Didier.
Ravi de vous retrouver.
Eh oui, ça nous fait plaisir. On va parler de ces éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 dont on joue les tout derniers matchs dans la zone européenne. Il se passe encore des choses dans les autres zones, en qualification notamment, en Amérique du Sud, en Afrique, enfin un peu partout. Mais on va se concentrer essentiellement sur la zone européenne. Écoutez, je vous propose qu'on démarre, hein, tout simplement. C'est l'arbitre qui lance le coup d'envoi, c'est parti. Et si on commençait... Comme c'est
à tout seigneur, tout honneur,
les Diables Rouges, les numéros 1 mondiaux, la Belgique qui jouait contre l'Estonie.
C'est un Français qui le dit.
Exactement, il faut savoir reconnaître les choses.
Oui, mais il le fait exprès parce que comme ça, il peut dire, on a battu la meilleure équipe.
Comment dire en anglais, I'm fishing for compliments, j'attends le retour pas de bâton, mais il va peut-être me revenir, mais... Non, donc la Belgique jouait l'Estonie, une victoire, 3-1, rapidement, on a eu des... On va parler du match longuement, mais pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi, 3-1 avec début de Benteke, qui profite d'une faute de main du gardien, mais quelle belle action. Il démarre sur une ouverture magique de Kevin De Bruyne, on va parler de Kevin De Bruyne assez largement. Pour Yannick Carrasco sur son côté, un joli travail sur son défenseur, il fait un très bon centre. Un centre qui aurait peut-être pas dû mettre le gardien autant en difficulté, mais le gardien est coupable d'une faute de main et Benteke reprend sans difficulté dans le but.
Une faute de main, c'est plutôt une erreur. Hein.
Une erreur.
Faute de main, ça fait un peu hens comme ça.
C'est vrai. T'as raison. Pour un gardien
but, c'est compliqué.
Il y a pas. Tout à fait. Alors une erreur.
Il s'est planté. Royalement.
Hein, si tu as vu l'arrêt, enfin de Rui Patricio, le Portugais, ça c'est une vraie faute de main.
Ce qu'il a fait. On est d'accord.
Le deuxième but belge vient.
Il a fait le tour de la toile.
C'est une merveille. Une passe en diagonale de Meunier, une remise de Benteke en retrait pour Yannick Carrasco, qui met une frappe sublime du gauche, une frappe qui s'échappe légèrement, un petit extérieur, coup de pied extérieur, qui va trouver la lucarne du but estonien.
Ouais, mais enfin, je vous trouve quand même pas fair play pour le coup, hein, parce que que dire de l'appel en profondeur de Van Aken?
Alors justement, on va en parler. Moi, j'ai pas exactement la même analyse, mais on va en parler avec plaisir.
Il est chaud aux fesses.
Voilà. Et le troisième, c'est Thorgan Hazard, à la suite d'un sublime centre de Kevin De Bruyne.
De la tête.
Par où on commence? Moi, j'ai envie de commencer encore une fois par tout seigneur, tout honneur. J'ai l'impression qu'il y a encore eu un match grand format de Kevin De Bruyne.
Ah, j'allais le dire. J'ai cru que tu allais passer par autre chose, mais c'est impossible.
Alors, il a eu il y avait tout pour lui qui collait. C'est-à-dire qu'il a joué dans une position un peu plus reculée, avec un milieu de terrain estonien qui venait pas énormément au pressing, ce qui pour lui est un cadeau. Enfin, s'il joue sur du velours, il avait le jeu devant lui. Le temps d'ajuster ces magnifiques transversales, et il y en a eu. Hein. Il y a eu, sur le premier but, la passe est sublime, elle va déboucher sur...
80 mètres.
Et elle arrive dans la course. Il y a un rebond Carrasco n'a même pas à adapter sa course, quasiment.
Ce qui est impressionnant, c'est que même quand il a le temps de lever la tête, quand il n'a pas le temps de lever la tête, il arrive à trouver des passes qu'il n'y a que lui qui trouve. Alors si en plus on lui laisse le temps de lever la tête...
Exactement, il a le temps, il fait comme il veut. Sublime, sublime transversale. Ensuite, il met un coup franc magnifique. Je vais devoir utiliser, il faut que je sois inventif sur les superlatifs, parce que à peu près toutes ces touches de balle ont été sublimes. Coup franc magnifique, qui est, je pense qu'elle est détournée par le gardien sur le poteau, mais le coup franc était magnifiquement frappé. Ensuite, il y a encore une autre ouverture, celle-là sublime pour Eden Hazard, qui va manquer son face-à-face avec le gardien. On va parler d'Eden juste après, si vous le voulez bien.
Aussi la bonne surprise de ce match, je trouve, pour ma part.
Eh ben, on va en discuter. Ensuite, la quatrième action que je retiendrai, c'est le troisième but où il fait un centre d'une rare intelligence.
Ah ben, je ne suis pas d'accord
avec toi. Pardon, sur le troisième but.
Pour moi, c'est pas un centre, c'est une passe en cloche, parce que quand tu revois ça,
ah oui, mais
ça ressemble en rien à un centre.
Mais
c'est
son toucher de balle, est super. Et ce qui me semble, c'est qu'il joue pas un partenaire, il joue une zone. C'est-à-dire que comme Dries Mertens fait un bon travail pour lui remettre la balle exactement dans la course.
Il fait un appel incroyable aussi.
Ouais. Et du coup, il joue la zone au deuxième poteau où justement il y a deux joueurs, Benteke et Thorgan Hazard, face à un défenseur. Et c'est Thorgan qui surgit et qui marque.
Il le fait en cloche, je pense. C'est la première fois. Moi, c'est la première fois que je vois une phase pareille. Il est au petit rectangle quasiment au moment où il fait cette passe en cette louche, en quelque
quasiment
sorte.
Une louche,
donc ça s'apparente à un centre puisque
ça vient du côté, mais
effectivement, en même temps c'est tout sauf ça. C'est une passe en cloche. Je veux dire, c'était juste. Enfin, c'est
une inspiration.
Oui, voilà. C'est touch of magic.
Ouais. Alors c'est
il a fait une passe en profondeur en cloche comme ça en première mi-temps.
Ouais.
Il est passé au-dessus de la défense.
Mais c'est vrai que face à alors on peut toujours se poser la question du niveau de la défense. On en parlera tout à l'heure brièvement avec la France qui a roulé sur le Kazakhstan. Mais tu me disais un truc très intéressant, Henri.
Ça m'étonne.
Non. Tu me disais qu'effectivement...
Moi aussi.
parce que la Belgique a gagné 3-1. La Belgique était déjà... n'était pas qualifiée encore, mais enfin, c'était pratiquement comme si c'était fait. Mais sans doute que si la Belgique avait dû gagner largement, ils auraient gagné largement.
Contrôler le match tranquille, quoi, vraiment.
Qu'est-ce que vous avez pensé vos plus et vos un peu moins, vos tops et vos flops, si on veut, de ce match. On est d'accord, Kevin, on lui aurait donné le titre de joueur du match.
Ben, il l'a eu, clairement. Donc voilà, on n'a rien inventé pour le coup.
Eden, parlons du match d'Eden Hazard.
Moi, c'était, pour ce qui me concerne, une bonne surprise, dans le sens où je l'attendais un petit peu moins bien affûté. Je l'ai trouvé, qui suis-je en même temps, supporter. Donc je trouve qu'il nous a régalé. On a retrouvé par moment, pas de manière permanente, le grand Eden. C'est-à-dire, en même temps, il faut voir contre qui tu joues, est d'accord. Mais il faut quand même les réussir, ces passements de jambes, il faut réussir, ces dribbles. Tu es supporter du PSG. Théoriquement, ils devraient gagner tous leurs matchs 10-0 si on s'en réfère à la valeur papier. Donc, Maiden, je l'ai trouvé peut-être un petit peu juste physiquement et pour cause, puisque finalement, il est descendu. Mais par contre, je l'ai trouvé, il a apporté un plus à l'équipe. Et je pense, indépendamment de ses qualités techniques, jusqu'à présent, il a porté un adjuvant moral en étant même présent dans le stade sur le banc. Et là, il n'a pas fait que et il n'a pas été avare d'efforts. Mais il l'est jamais. Ça, il faut lui laisser. Ce gars, il mouille le maillot, quelles que soient les circonstances.
Mais il a trouvé du plaisir, j'ai l'impression.
Ouais, c'est vrai.
Il était un peu cette occasion, enfin, on va beaucoup en parler, l'occasion où il est en face à face, c'est révélateur plutôt d'un manque de confiance.
C'est ce qui me semblait.
Mais en tout cas, en termes de jeu, parce que quand on parle d'Eden Hazard, on parle de jouer au football.
Tout à fait.
Et là, on l'a vu jouer avec le ballon. Il a pris
jamais vu faire autre chose que jouer au foot. Travailler, c'est pas
ça. Et on en parlait hors antenne, sa dernière sortie avec les Diables Rouges, Kevin n'était pas là. Et c'était, je pense, c'était une bonne chose. parce qu'il a joué à un poste où il a touché plus de ballons.
Tout à fait.
Il a repris confiance et de nouveau du plaisir à jouer avec cette équipe nationale. Cette fois-ci, il y avait des supporters en plus. Je pense que ça.
Je pense aussi. Alors après, c'est facile de faire, de refaire le match après, je dirais. Mais ça doit être plus simple pour lui de jouer avec les Diables parce que c'est sans pression, d'une certaine manière. Il faut toujours performer, on est d'accord, parce qu'ils sont là pour ça, ils se sélectionnent. Mais enfin, je pense qu'Eden Hazard, il n'a pas beaucoup de soucis à se faire pour sa place quand il est fit physiquement, ne fût-ce que par la symbolique qu'il incarne. Mais je dirais... quand tu joues au Real Madrid et que tous les jours tu as trois pages avec ta photo et est-ce qu'il
on rappelle le
prix du transfert,
il a voilà. coûté tant, il est arrivé en surpoids et
j'ai l'impression que tu montes sur le terrain et tu as tellement peur de mal faire que finalement ben c'est comme tout, moi je connais plein de gens, on leur prête une bagnole, eh bien ils ont tellement peur d'avoir un accident que finalement ils le provoquent parce qu'ils sont trop stressés, tandis que quand tu
c'est vrai que je pense que Eden Hazard il doit ressentir quand il joue avec les Diables uniquement de l'amour autour de lui, de la bienveillance.
Je ne sais pas si vous avez entendu ce que Torgan a dit.
Non.
Donc, il y a un journaliste qui dit Eden est sélectionné parce qu'il faut lui redonner du temps de jeu. Et dit non, on est sélectionné parce que c'est notre capitaine et que c'est le meilleur joueur de la génération.
Exactement, tout simplement. Il a une bonne réponse et il fait bien de dire ça puisque lors de ce match, il a égalé le record de Jan Kullmans de Capitana, 51e match avec le brassard pour Eden Hazard. C'est vrai que ça lui fait du bien. On reparlait de cette action où la passe, ça aurait été tellement beau qu'il réussisse à conclure sur cette magnifique passe de Kevin De Bruyne.
C'est presque un pléonasme dire aujourd'hui.
Magnifique, oui, c'est ça.
Magnifique passe de Kevin De Bruyne.
Mais alors, il arrive face à face avec le gardien. Peut-être qu'il sent pas que le défenseur revient, ou peut-être qu'il veut encore. Il est dans son état d'esprit d'être très joueur, alors il veut en rajouter peut-être encore un peu. Je sais que certains ont dit il aurait dû frapper direct. Bon, à mon avis, avec 6-8 matchs de plus dans les jambes et du rythme, son dribble il est peut-être un peu plus précis ou il réussit.
Fred Wasser, il est sur cette action-là. Le piège est Eden Hazard, c'est un joueur d'instinct. Et là, il a réfléchi.
Il a eu trop de temps, peut-être. C'est vrai que parfois.
Il aurait dû jouer de l'instinct.
Parfois, c'est ça. On se dit que trop de temps, c'est peut-être pas bon. Ce que j'ai trouvé, mais c'est toujours le cas avec Eden Hazard, il se retrouve par terre à la fin de cette action. Bon, il tape un peu sur le sol parce qu'il est déçu de ne pas avoir marqué. Et il se relève avec le sourire, pas un sourire je m'en foutiste, mais un sourire de... C'est pas grave, c'est du foot.
Pas là qu'il y a joué.
Ouais, voilà. Je pensais pas à lui particulièrement, mais...
Encore qu'il a été brillant, hein. On y reviendra, bien sûr.
Oui.
Et on parle de Kylian Mbappé, hein, pas de Kylian Hazard.
Qu'on attend encore en équipe de Belgique, bon.
Non, je ne pense pas.
Non, c'est comme les fils de Zidane.
Déjà qu'il attend au Cercle de Bruges, donc c'est pas demain.
Dans les tops, on a cité un aussi, c'est Benteke qui a...
Ouais.
Il a saisi sa chance, chaque ballon qu'il a touché a été cadré. C'est ce qu'on attend quand même d'un attaquant.
C'est vrai. Et ça doit être rassurant pour Roberto Martinez de se dire que...
Ou compliqué.
Ouais, il passera pas devant Lukaku, mais au moins de se dire que si Romelu est pas présent ou doit être mis de côté...
Mon pronostic, c'est qu'il va être pris avec, parce que je pense que c'est le seul qui a le profil qui ressemble le plus à Lukaku si Lukaku est blessé.
Ouais.
Butchou, il y a des statistiques de dingue en équipe nationale, on le sait.
C'est le totem, Michi. Mais il peut pas être...
Martinez, il a un style de jeu qui est assez stéréotypé, on le sait, il change pas son système, mais...
D'un autre côté, pour moi, Michi, on l'a déjà évoqué dans cette émission plusieurs fois, c'est un talent indéniable, et je pense
d'accord.
Un des plus gros talents que la Belgique ait connu. Il l'a galvaudé par un caractère épouvantable, apparemment, et j'ai l'impression que Benteke, pour ça, c'est un bon soldat, ce que Michi n'est moins, ou pour ne pas dire pas. Benteke, il fait ce que le coach va lui demander de faire, comme Lukaku, du reste, malgré tout le nom et tout l'argent qu'il représente. Quand tu vois Lukaku et que le coach lui parle, il écoute comme un enfant, écoute son prof. Michi, c'est différent.
C'est un peu, ouais.
C'est différent.
C'est normal, il a joué à l'OM. Ils n'écoutent pas là-bas. Hein.
Si je vais parler d'un flop, moi je dirais Yann Vertonghen.
Alors oui, j'allais revenir sur la défense, parce que malgré tout, il y a un but qui a été encaissé. Ce but, on transperce assez rapidement le premier rideau défensif pour arriver... en un contre un entre un attaquant et Jason Denayer, qui est sur le joueur, et c'est ce que je me disais, il est sur le joueur, il ne fait rien pour l'arrêter. Enfin, il n'arrive pas à le stopper.
Non.
Et puis Vertonghen est un peu lent ensuite pour...
Ça, c'est aussi un pléonasme.
C'est un pléonasme aussi. Alors du coup, bon, là, on sait, hein, c'est lancinant depuis quelques temps, on se pose les questions sur la solidité de la défense sur les années qui passent, et donc forcément ça ne va pas arranger les choses. Roberto Martinez avait fait une expérimentation puisqu'il avait aligné Timothy Castagne, voilà, en troisième défenseur central côté droit, avec Thomas Meunier devant lui.
Aussi un top pour moi, mais on y reviendra peut-être.
Ouais, non, mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette idée de...
Moi, ça m'a plu.
Ouais. Ben moi, j'ai envie de dire qu'un entraîneur qui gagne est un entraîneur qui a raison. J'ai rien inventé en disant ça. Donc voilà, on aurait perdu, on aurait probablement un tout autre discours en disant comment est-ce qu'il a osé, etc.
Non, mais par exemple, est-ce que c'est une bonne idée d'essayer, selon vous, de replacer un joueur à un poste qui n'est pas le sien naturellement, plutôt que d'utiliser, par exemple, l'un des centraux qu'il avait sélectionné
le jeune.
Je vais
te donner un exemple qu'on a failli évoquer. Tu prends, je pense que c'est Garrido qui a fait ça à Bruges. Meunier étant attaquant de formation, il l'a replacé en bac droit. Et voilà la carrière qu'il a faite. Toute sa carrière, il l'a faite là. Et ça lui permet de marquer des buts et d'amener des centres de par sa formation. Donc, pourquoi pas
Il l'a fait, je crois qu'il a occupé ce poste un petit peu avec Leicester.
Aussi, tout à fait. Mais j'ai l'impression que c'est finalement l'entraîneur, ou en tout cas le sélectionneur, qui voit les joueurs à l'entraînement. Je pense que lui, mieux que quiconque, peut voir les aptitudes de certains. Alors parfois il se plante, hein, on est d'accord. Mais j'ai l'impression que nous, on est un petit peu tributaires des résultats, quoi. Quand on gagne, c'était génial, c'était la bonne option. Quand on perd, garde Pep Guardiola avec les finales de Champions League. Tout le monde lui a reproché son plan. Il l'a pris sa part. D'ailleurs, il l'a dit, il s'est planté, il a joué, il a perdu. Et voilà, et pour le même prix, il gagne et on lui met une statue.
Mais on dit souvent qu'on apprend plus d'une défaite qu'une victoire, parce que la victoire cache peut-être des défauts.
Oui, c'est vrai que c'est pour ça que dans cette victoire, on peut peut-être gratter pour voir ce qui a pas été formidable. Il n'y a pas eu grand-chose de négatif dans ce match.
Une chose est certaine, en tout cas m'apparaît personnellement, c'est que quoi qu'il arrive, le chantier de la défense, il est là.
Il est là, ouais.
Et il faudra de toute façon faire des tests. Et il faudra de toute façon tout renouveler.
Donc, c'était la question, c'était de savoir est-ce que, justement, puisqu'il sait qu'il y aura des tests à faire, c'était la question de se dire, est-ce que j'aligne un petit jeune dont c'est
il est brillant, le Castagne.
Oui, ouais, non, c'est simplement l'idée
pas
de se dire. Voilà,
à Virton, et il joue dans un gros
et
championnat.
Pas, et pas Reims non plus.
Et puis, c'est pas sa première sélection. Ouais, il connaît les Diables, il connaît les gens avec qui il a joué. Donc, je veux dire, c'était un risque pour ma part, mais un risque tout à fait calculé.
Non, je pensais même pas au risque, mais plutôt à l'idée de se dire, est-ce que dans une perspective plus long terme, dans un an, est-ce qu'il se dit...
Moi, je pense qu'il est candidat sérieux à ce poste-là.
Ouais, je pense aussi.
Faudra voir, parce que t'as aussi Van Eusden qui va revenir. Ouais. Puis il y a surtout Fess, un petit peu plus circonspect, on va dire. Mais je pense surtout, son nom ne me revient pas, au Standard Men, qui joue défense centrale, qui est aussi un excellent, qui a été blessé.
Au Gauchy Oniou.
Non. elle est aussi un Belge.
De Soleil.
Non, je t'ai dit un bon joueur.
Salut Steve.
Noé Dussen.
Oui, Noé absolument, Dussen, ouais. Absolument. Tu prends un Van Eusden, tu prends un Noé Dussen. Je veux dire, alors je ne sais pas si on aura la défense du siècle, mais on aura quand même.
Il y a un problème avant la Coupe du Monde, c'est le peu de matchs qu'il y aura.
Ouais.
Oui, mais en même temps, je pense que il le sait. Sinon, on le sait. Tu penses bien que Martinez le sait.
Je sais que pour la France, ils ont prévu peut-être une petite tournée en mars, puisqu'en mars, il y a des dates qui sont bloquées, puisque ce seront les barrages. Donc, les équipes qualifiées pourraient en profiter. Il y aura au moins deux matchs, donc c'est pourra en profiter pour faire un petit stage. Je pense que la France a prévu un stage peut-être au Qatar. Donc peut-être que la Belgique va faire aussi profiter de ça pour jouer encore un peu plus.
Martinez a annoncé quelque chose d'assez nouveau, c'est qu'il a dit que pour les deux matchs qu'il y aura au mois de mars, il jouera avec des joueurs qui ont moins de 50 sélections.
Voilà.
Oui. Au moins, ce sera la phase test.
Ouais. Mais je pense que la phase test va commencer demain pour moi.
Je pense, ce qui est intéressant aussi, tu disais, je pense qu'on devrait peut-être calquer l'idée française pour une fois. C'est un clin d'œil. C'est peut-être effectivement d'aller jouer un match là-bas dans des conditions, et pas attendre l'été, hein. Il faudrait y se mettre et aller jouer un match dans les conditions dans lesquelles ils seront dans un an. Parce que ça doit pas être évident, à mon avis, de s'adapter.
Il faut se faire à la clim. à la clim sur le terrain.
Surtout en novembre, tu vois, ils vont quitter la Belgique en novembre. Regardez le temps qu'il fait dehors, ils vont débarquer.
Ouais.
Ça a l'air anodin comme ça, mais je pense que c'est pas gagné, quoi. Et pour toutes les équipes.
Moi, ce qui m'inquiète particulièrement, en fait, c'est le, c'est pour les organismes des joueurs, c'est le peu de temps qu'il y a l'air d'y avoir, parce que...
en plein milieu du championnat.
Ouais, et que la plupart des ligues ont donné 10 jours, je crois que ça va être 10, ils vont s'interrompre 10 jours avant la Coupe du Monde.
C'est très court.
Enfin, ouais. Si tout le monde est logé à la même enseigne, oui, mais, à partir de
oui,
là,
mais un Italien du Sud, il va pas quitter l'Italie en novembre comme un Belge qui quitte. Ouais, regarde la météo aussi qu'on a maintenant.
Mais c'est vrai.
Enfin
mais...
bon, l'inverse est vrai aussi. On a déjà joué sous la pluie et les Sud-Américains venaient. Voilà,
on s'en fout.
Ne soyons pas trop sûrs.
Pour faire les tests, je pense qu'il aura quand même très peu de temps.
C'est vrai. Non, c'est pour ça que vous avez raison. Il risque de commencer ses tests demain. On espère.
Bien sûr.
De notre côté, la titularisation, ou en tout cas, ou peut-être la montée au jeu, mais d'un certain joueur bruxellois, le seul bruxellois sélectionné lors de ce rassemblement, Dante Valzer.
Il n'y a pas d'Anderlecht, toi ?
Il ne me semble pas. Des anciens, oui.
Il y a plus de Denis que d'Anderlecht, toi, imagine-toi.
Les temps changent.
Un dernier mot, peut-être.
Je voudrais quand même revenir un petit instant, si tu permets, sur Kevin De Bruyne. Pour avoir écouté les commentaires, hein, c'est pas mon analyse personnelle, mais c'est vrai. Au départ, ils étaient très étonnés parce que l'interview d'avant-match de Martinez disait que Kevin allait être en faux numéro 9.
Ouais.
Et puis, dès le début du match, tout le monde s'est étonné de le voir aussi à l'arrière pour aller chercher le ballon. C'est-à-dire, c'était quasiment le pare-choc défensif. Mmh. Et le journaliste avait posé la question, je ne sais plus qui était au commentaire, en disant, est-ce qu'il désobéit à Martinez ou bien... Et apparemment, un grand bien lui a fait, parce qu'effectivement, Kevin, quand il a le jeu devant lui...
Moi, je pense que c'est l'intelligence de jeu. Ça.
Ouais, je pense plutôt que...
Il fait ce qu'il veut.
Martinez craignait fortement l'Estonie et il a fait une fausse piste en disant ça.
Moi, je pense qu'il devait jouer plus profond et qu'il a vu qu'en reculant, il avait de l'espace.
Oui, aussi.
Ça a marché une fois en début de match et puis il l'a fait pendant tout le match.
Il y a une bonne connexion. On a parlé de Benteke, mais avec Yannick Carrasco, on n'en parle pas assez peut-être parce qu'il y a Eden, il y a Kevin De Bruyne, mais il fait un sacré début de championnat avec l'Atlético.
C'est vrai.
Et là, il a régalé. Le but est magnifique. La passe, le centre, qui va être comptabilisé comme un assist, hein, parce que simplement, balle est simplement déviée, touchée par le gardien, mais un assist pour
Benteke. Il la met où il faut.
Ouais. Et puis, on va revenir sur un but magnifique aussi, qui n'a malheureusement pas été accordé.
C'est moche.
C'est le but de Alexis Salemakers, qui met un superbe extérieur. C'est Charles de Ketelaar qui était un poil hors jeu.
Il n'y a pas de discussion.
Non, il n'y a pas de discussion, personne n'a discuté d'ailleurs. Revenons juste pour le fun sur le but de Carrasco, où toi tu vois Hans Van Aken qui ouvre la défense.
Je suis pas le seul à avoir vu.
C'est vrai. Non, mais en regardant ça, je me dis, c'est vrai qu'il a bien ouvert la défense. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait volontaire.
D'accord.
Je pense qu'il s'est retrouvé à un moment en se disant, puisque je ne peux pas... Il a essayé de toucher le ballon, il a vu qu'il était court, il a vu que la remise était pour Carrasco, il s'est dit, je risque juste d'être sur la trajectoire, il faut que je me pousse très vite. Un chien dans un jeu de qui.
Je vois partir pour faire un appel de balle.
Oui, au cas où Carrasco voulait la lui aurait glissé. Non, c'est vrai.
Mais c'est vrai que ça ouvre la fenêtre de tir, et le but est juste magnifique.
Pour revenir sur Carrasco... Le problème sur un match comme ça, on ne sait pas tester son apport défensif.
Ben c'est marrant.
Ouais, c'est vrai.
C'est pour vous donner mon avis, si tant est que ça vous intéresse.
Oui, monsieur, ça nous intéresse.
Mais j'ai toujours l'impression, alors, ou bien il est moins glamour que les autres, je n'en sais rien. Mais Carrasco, pour ma part, je le trouve un peu trop inconstant, en fait. C'est un gars qu'on va adorer dans certains matchs, et puis dans d'autres matchs, il est totalement transparent. Et ce qui n'arrive jamais avec un De Bruyne, il fait parfois des mauvais matchs, mais il n'est pas transparent. Et Eden Hazard n'est jamais transparent. Carrasco, je l'ai déjà vu transparent dans des matchs. À l'Atlético, j'en sais rien, je ne suis pas trop la Liga, je t'avoue. Mais et c'est vrai qu'il fait un début de championnat à Tony Turner.
Je crois que c'est pour ça qu'Hazard ne performe pas. Hein. Il est au courant que tu ne le suis pas. C'est pour ça que...
Mais tu vois ce que je veux dire.
Non, je suis d'accord avec toi. Il n'a pas la constance de Kevin De Bruyne ou d'Eden Hazard quand il...
Mais il fait un petit peu penser à Nasser Chadli. Pour moi, je le mets pour le même poste en plus.
Moi, il me fait exactement penser, je ne sais pas si vous vous souvenez, à... de Jérémy Ménez, qui jouait Génération 87 française.
Qui a mis un goal contre Anderlecht.
Ouais, les joueurs... pétri de talent, mais qui sont un petit peu plus qu'inconstants, mais qui ont l'air même de se traîner de temps en temps.
Capable de coup de génie.
Exactement. Coup de génie, ça ne l'intéresse pas si c'est trop facile, peut-être même.
Tout à fait.
Et comme il a un rôle quand même qui n'est pas tout à fait... C'est pas un ailier qui doit juste rester dans les 40 derniers mètres, mais qu'avec son rôle de piston, il doit quand même courir. Je suis d'accord que le match face à l'Estonie était peut-être pas le test le plus.
Mais il y en a un autre dont l'inconstance, maintenant il a disparu des écrans radars complets, c'est Yanouzaj.
Ah oui.
Ah oui, il est en tête du championnat.
Ben, je sais, mais en attendant, lui et aussi, c'est l'inconstance qui l'a fait disparaître des diables. Parce que bon joueur, différent. Il est, et du talent, il en a à revendre, hein, clairement.
Mais je pense que Carrasco progresse quand même dans ce sens, dans le terme d'état d'esprit. Je pense qu'il a pris un peu plus de maturité.
Oui, mais enfin, il est plus tout jeune non plus. Hein. Je ne sais pas quel âge peut avoir, mais.
Il est plus jeune que nous, en tout cas.
À peine.
Ça doit être la génération hasard, à mon avis, non ?
Un peu plus jeune, je pense.
Peut-être. Ouais, il faut aller voir. Je vais une fois aller checker. Allez. Meuble et je check.
Voilà. Écoute, on va meubler avec l'équipe de France. Petit coup pour l'équipe de France. L'équipe de France jouait contre le Kazakhstan. Victoire 8-0. C'est quand même rare que les Bleus l'emportent autant. J'ai eu une réponse. Hein, ils ont joué dans l'écrin parfait pour le football français. Le Parc des Princes.
C'est ça, ils jouaient pas au Stade de France.
Ils avaient quitté ce maudit Stade de France. Enfin, maudit. Qui a apporté quand même les victoires, mais qui manque cruellement d'une bonne atmosphère. Il y a pas grand chose à en dire, ou plutôt pas de grands enseignements, à mon avis, à tirer de ce match de l'équipe de France face à une défense indigente, pour paraphraser, Blaise, je vais pas le nommer, on a l'impression qu'il jouait contre le boucher du coin et des amateurs.
D'un autre côté, on a déjà joué contre Malte, on a déjà joué contre les îles Féroé. Et ça ne s'est pas toujours soldé par des scores de 8-0. Il faut les mettre quand même.
Il faut les mettre. Et on va noter quand même la performance individuelle.
Et ça me fait mal de le dire.
De Kylian Mbappé, qui a mis un quadruplé. C'est suffisamment rare, mais c'est tellement rare dans le football français. C'est une chose dont j'étais absolument pas conscient. Ça fait tout simplement depuis 1958 qu'un Français avait pas marqué 4 buts avec l'équipe de France.
Alors d'accord.
1958, il succède tout simplement à Juste Fontaine en demi-finale Coupe du Monde 58.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il n'a pas. Non, c'est Juste Fontaine.
Juste Fontaine, c'est le blanc.
C'est le blanc, voilà. C'est juste le blanc, c'est Juste Fontaine. Les Bleus vont donc jouer leur dernier match de la campagne demain soir, eux aussi, contre la Finlande à Helsinki. Un match qui aura évidemment aucun enjeu pour les Bleus. Il y en aura pour la Finlande qui peuvent chercher à conserver leur deuxième place. Côté français, il y aura tout de même une petite carotte. Ils sont sur une série de 26 matchs sans défaite. Et sachez que la meilleure série de l'histoire du football français, c'est de 27 matchs. Donc s'ils ne perdent pas demain, ils égaleront cette série. Bravo à eux.
Alors, deux choses. Ah. Je vais revenir à Kylian Mbappé dans un instant.
Ouais.
Mais 28 ans et 2 mois pour Yannick Carrasco.
Il n'est pas si vieux.
Il est de 4 septembre 1993. Voilà, comme ça vous savez tout. Enfin, dixit Wikipédia. Hein. Et puis
confiance.
La deuxième chose, c'est que je voulais te dire que il a mis 4 buts, Kylian, chapeau bas, ou casquette bat, comme on veut. C'est vrai qu'on n'a pas la télé ici, mais bon. Mais le plus beau but, il l'a mis à l'entraînement. Je ne sais pas si tu l'as vu sur YouTube.
Il a fait une...
Incroyable. Un centre, une reprise de volée du talon. Mais volontaire, hein, donc il est face à la balle, il se retourne, il la tape du talon, en cloche pleine lucarne, croisée.
Mais quand il joue au foot, on aime bien.
Mais c'est exceptionnel.
Ça, il est pas dur avec lui.
Ah, alors, vous tapez Mbappé, YouTube, entraînement, but, talon, vous allez vous régaler. Si vous aimez le foot, c'est juste... apparemment, c'est fait exprès.
Oui.
Je sais pas s'il a réussi à le rééditer, mais au moment où la caméra l'a tourné, c'était peut-être la 8000e
prise. Exactement, ce que j'allais te dire. C'était peut-être la 8000e prise. Tu disais que si on aimait le football, il fallait regarder ça. Si vous aimiez le football, il fallait aussi regarder Portugal-Serbie. Portugal-Serbie, un match, un vrai match de qualification qui sentait la sueur, les larmes, le molar, le sang, tout. Enfin, il y avait tout, du sang, de la chic et du molar, comme on dit.
Bien sûr.
Un final quand
très
même,
poétique,
n'est-ce pas ? Un final magnifique. La qualification est revenue aux hommes de Dragan Pixis Stojkovic, qui est le sélectionneur de l'équipe de Serbie. Une qualification méritée. Moi, j'étais d'autant plus content de voir Stojkovic qu'il a été l'une de mes idoles étant plus jeune, à l'image de Michel Platini, dont il est d'ailleurs très ami, et avec lequel il partage quelques points communs, et comme le numéro de maillot, hein, le talent, et depuis plus récemment, un énorme ventre. Un gros ventre.
J'avais cru que tu allais parler des enveloppes.
Non, je crois pas. Oh, cela ne nous regarde pas.
Non, c'est vrai, il n'y a pas de preuve.
Bon, en tout cas, l'avantage de ces finales de groupe, puisque ça en était une, le Portugal était, et les deux équipes étaient à égalité de points, l'avantage de ce genre de match, c'est que les rôles sont assez clairement définis. Il y a une équipe qui doit gagner, et une autre qui ne doit pas perdre. Et donc dans ce match, ça a été le cas. On avait les rôles étaient bien distribués. Pourtant, les choses avaient si bien débuté pour le Portugal qui a marqué à la deuxième minute. Et donc le Portugal était vraiment bien parti.
Sur du velours, hein.
Sur du velours, ouais. Une belle perte de balle. Et ça se jouait au Portugal, au Stadio de la Luz.
Ils avaient de la Luz.
Hein. De la Luz, voilà. Qui est devenu de la Luz pour eux. Le Serbe devait alors marquer deux buts, sans en concéder un pour se qualifier. Ils allaient en tout cas prendre le match par le bon bout. Dès le premier but qu'ils avaient encaissé, ils ont commencé leur travail de pressing sur les Portugais qui ont paru de plus en plus fébriles. Malgré quand même, je regardais l'équipe, un 11 de départ qui avait une sacrée allure. Il y a 6 joueurs de première ligue et pas des moindres. L'attaque du Portugal, c'était Bernardo Silva, Diogo Jota de Liverpool, Cristiano Ronaldo. En défense, il y avait Cancelo et Diaz de City.
Rui Patricio,
Rui Patricio de l'AS Roma dans les buts. Et puis, il y avait 4 joueurs de Ligue 1, ce qui est un peu... Et il y avait Moutinho au milieu du terrain.
Félix, il ne jouait pas.
Et il était sur le banc, il est monté après. Et c'est du joueur qui joue en Serie A, le gardien Rui Patricio, hein, que l'édifice portugais a commencé à craquer. Il a fait une erreur de main. C'est pas une faute de main, mais t'as raison. C'était une vraie erreur de main sur une frappe détournée de Dusan Tadic qui a donné l'égalisation. Hein, Tadic, vous vous souvenez, c'est ce fabuleux joueur de l'Ajax.
Absolument.
Qui n'est pas parti de l'Ajax et qui a un talent incroyable.
Marc, comme il respire. C'était le Lewandowski d'il y a 3-4 ans.
3 ans, oui, quand ils ont fait leur
fameuse épopée européenne.
Ouais. Et ce but, un but marqué. Et il ne restait plus qu'un but à marquer pour la Serbie. La Serbie qui allait continuer à attaquer. Et comme c'est le cas souvent, hein, on le dit, hein, ce qui devait arriver, arriva. Je vous propose d'écouter un excité du micro qui nous narre ce qui se passe.
Roten.
Avec Tadic là pour le centre.
Il y a du monde.
Oh, voilà, oui. Eh oui, la Serbie pour l'Old Up, ici au Stade de la Luz, avec le buteur de Fulham, Aleksandar Mitrovic, qui va envoyer la Serbie au Qatar directement. La Serbie de
Stojkovic,
Pixi qui va à la Coupe du Monde, alors qu'il est en tous les cas. Quel but!
Pas encore, Denis, il va rester 4 minutes de temps additionnel. Mais quelle erreur défensive de cette équipe portugaise. Il y avait 3 maillots blancs au deuxième poteau.
Celui qui parle là, c'était Denis Brognard. Non, pas Denis Brognard. Denis Balbir, pardon. Et celui qui était un peu plus modéré, c'était ce bon vieux Jean-Marc Ferreri.
Ah, oui. Ah bon, il y avait des modérés.
Ouais, ouais, il est plus modéré.
À mon avis, c'était supporter de la Serbie, hein, c'est pas possible.
Ah, le premier, celui qui hurle, mais lui, il est... Mais Ferreri, hein, champion d'Europe 84.
Bordeaux,
beau joueur, ouais. Bordeaux, Auxerre, Marseille même. Et c'est donc Mitrovic, pour revenir au match.
Les Anglais ont brillé.
J'avais dit, il a tout appris au Sporting.
Il a tout appris.
Et ce stade, c'est un stade où Anderlecht a gagné une Coupe d'Europe aussi.
Bon, bah voilà, c'était écrit. Il a pris son carton jaune juste après, puisque bon, on peut le comprendre.
Il a de nouveau fait ses gestes à Mitrovic.
Il a retiré son maillot en courant et tout le monde lui est tombé dessus. Cela dit, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, ça m'a fait bien marrer. Il y a un Serbe qui a parié sur le but de Mitrovic et sur le carton jaune directement après.
Ah oui.
Mais
bien gagné.
Il a eu marre.
Il y a des images qui circulent sur Internet aussi. Il y a Djokovic qui saute de joie au moment du but de Mitrovic.
Ah bah. Et c'était pas pendant son match, si ?
Non. Je crois qu'il est dans...
Il n'y a pas un tournoi prévu à Cannes cet été par hasard ?
À Cannes ?
Ouais, ça me ferait plaisir de voir les Serbes à Cannes. Ouais. Très drôle. Voilà, ça c'est fait.
Ouais, il faut que j'enregistre
je vais y aller.
Un clapement.
Je suis parti. Donc, c'était pour rire, hein. Ne prenez pas vos billets, il n'y en a pas.
En tout cas, voilà, Mitrovic a envoyé la Serbie au Qatar. C'est le jour de gloire pour les hommes de Stojkovic. La fédération serbe, d'ailleurs, ne s'y est pas trompée. Elle a décidé d'allouer une prime d'1 million d'euros à se partager entre les joueurs pour leur exploit, leur qualification.
Donc, il y en a qui ont trop d'argent. Hein.
Que penser de cette équipe du Portugal ? Je vais vous remettre un petit peu les choses au clair. Le Portugal avait vraiment les cartes en main. Le Portugal comptait 16 points contre 17 à la Serbie avant la fenêtre internationale qui vient de s'ouvrir. Les Portugais avaient 2 matchs à jouer. Le premier, c'était en Irlande. C'était jeudi. J'ai regardé le match. C'était une purge côté portugais et c'est vraiment frustrant.
Quelle conscience professionnelle.
Ouais, c'est ça. C'est ce que je disais à ma femme. Je disais, non, c'est pour le boulot. Hein, je peux pas. Tu regardes encore du foot ? Mais non, mais ça, c'est le travail. Je peux pas.
Oui, non, mais... Je vais essayer ça aussi. Enfin, la mienne, elle est très compréhensible. Elle est limite plus supporter que moi.
Bon. Même pour un Irlande-Portugal.
Je ne sais pas. Portugal, elle adore. Hein,
faut
elle
tester.
Adore, ouais.
Non, mais c'est vrai que quand on voit l'équipe du Portugal, avec. Là, j'ai cité l'attaque qui était en place hier, mais il y avait. Bruno Fernandes aussi. Comme tu l'as dit, il y a João Félix qui est sur le banc. Et malgré ça, ils n'ont pas réussi à gagner. Alors, tu me disais, Didier...
Un peu comme Anderlecht quand il joue contre l'Union, tu vois.
Non, je vois.
Il y a eu un petit échauffement entre... Ils se sont un petit peu chauffés. Cristiano était critique de la stratégie.
Absolument.
De Santos, et on peut le comprendre. Le match face à l'Irlande, même si mathématiquement ça changeait pas grand chose dès lors qu'ils perdaient pas, puisqu'ils ont fait match nul et le match nul les a mis devant la Serbie, donc la Serbie était obligée de gagner pour se qualifier. S'ils avaient battu l'Irlande, ils auraient eu simplement 2 points d'avance sur la Serbie. Et la victoire de la Serbie qualifiait aussi les Serbes. La seule différence, c'est qu'en ne jouant pas vraiment le coup, en semblant attendre un peu. Ils se sont pas mis dans un bon rythme, ils se sont pas mis sans doute conditionnés pour être des vainqueurs, et ils ont la cerise sur le gâteau, perdu Pep, qui a chopé son deux cartons jaunes, suspendu forcément.
Moi, je suis pas triste pour lui.
Non, on n'est pas triste pour lui, mais pour le Portugal, c'est vrai que quand vous perdez, quand tu perds ton homme de base, parce que il a beau avoir l'âge qu'il a, il a beau avoir fait les saletés qu'il a fait dans sa carrière, ça reste un grand défenseur, et pour jouer une finale de groupe comme celle-là, ils auraient été plus heureux avec lui.
Moi, ce qui m'a vraiment interpellé, hein, tu l'évoquais là tout de suite, c'était effectivement que Cristiano Ronaldo s'en est pris à invectiver son coach. Et j'ai envie de dire, ça m'inspire deux choses. D'abord, c'est le côté négatif. C'est un peu compliqué qu'un soldat ait engueulé son général, j'ai envie de dire. Et l'autre côté, c'est que je me dis, voilà un gars qui a tout gagné, qui a assez pour vivre 25 vies, lui, ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et voilà un gars qui, après 90 minutes de foot, a encore cette grinta, cette rage de vaincre. J'ai envie de dire chapeau bas l'artiste aussi, alors que c'est pas mon préféré, tu le sais.
Je suis d'accord. Non.
Mais franchement, niveau aussi. Motivation, waouh.
Bravo. Ouais,
on garde tous cette image de la finale du championnat d'Europe.
Exactement.
En France, où il est blessé, il se blesse, c'est un drame.
Ouais, mais là, tu es pour une finale d'un championnat d'Europe.
Ouais, mais c'est vrai que c'est encore plus fort.
Enfin, pas
plus
fort, mais. Hein.
Non.
Ils ont des matchs de barrage.
Ils ont les matchs de barrage. Mais
c'est incroyable.
En voyant ce coup manqué par les Portugais, on ne peut pas s'empêcher de repenser. On va revenir un peu quelques mois en arrière, 8 mois en arrière. On est le 27 mars. On est à Belgrade et le Portugal rend visite à la Serbie. Après avoir mené 0-2 grâce à un doublé de l'attaquant de Liverpool, Diogo Jota, les Portugais se font remonter par les Serbes. Mais Ronaldo, qui abandonne jamais, ne veut pas en rester là. Et il parvient dans les arrêts de jeu à devancer le goal serbe, à glisser le ballon dans le but vide. Il y a un sauvetage qui est effectué par un défenseur, mais un sauvetage qui semble trop tardif parce que le ballon a passé la ligne. Tout le monde l'a vu, tout le monde sauf deux personnes, Dani Makeli, l'arbitre.
Mais on ne veut pas dénoncer. Hein.
Non, mais je vais le dénoncer parce qu'il a fait un truc que j'ai trouvé pas très correct. Donc Dani Makeli, c'était l'arbitre néerlandais de ce match, qui a présenté ses excuses après, parce que chose rare et dans le football d'aujourd'hui, il se trouve que ce soir-là, il y avait ni goal line technology ni VAR. Il comptait donc aussi sur son assesseur, sur son assistant arbitre de touche, qui lui non plus n'a pas vu le ballon franchir la ligne. Et en homme très courageux, visiblement.
Comment le garçon ?
Je ne vais pas donner son nom, parce qu'il a déjà suffisamment soupé. Dani Makeli a décidé d'écarter son assistant du trio arbitral qu'il formait, pour aller à l'Euro. Et je pense qu'il a voulu... Il a pris un autre arbitre de ligne.
J'ai pas
suivi ça. Et je pense qu'il a dû se dire, il vaut mieux qu'il soit lui qui paye les pots cassés plutôt que moi, qui suis pourtant le superviseur et qui suis pourtant le capitaine oui. des...
Ça Donc, se passe voilà. dans plein d'endroits, tu sais.
Des Exactement. Choses des choses comme ça, on prend pas ses responsabilités.
Il y en a qu'ils aiment bien le cavote quand ça marche bien, et dès qu'il y a un problème, c'est jamais eux, c'est toujours...
Voilà. Donc Dani Makeli aura fait ses excuses aux Portugais, qui doivent être bien content aujourd'hui d'avoir reçu des excuses, mais en tout cas le ballon avait bien franchi la ligne. Vous vous souvenez, Ronaldo arracher son brassard, faire même des signes de la tête en étant dégoûté, j'arrête, c'est pas possible, parce que son but était vraiment valable. Alors bon, ils sont les dindons de la farce d'une certaine manière, les Portugais, mais ils avaient quand même les moyens de se qualifier. C'est ça, c'était que la deuxième journée, il y a eu plein d'autres choses. Bon, ils devront passer par les barrages et dans lesquels ils seront tête de série, donc ils recevront lors du barrage.
Ils auront deux matchs de préparation grandeur nature.
Écoute, on ne sait pas, et ils pourraient, s'ils réussissent, ils vont devoir se battre pour offrir à Ronaldo, parce que Ronaldo... Tu dis qu'il se bat, même après 90 minutes, même après tout ce qu'il a gagné, tout l'argent, les titres, Il aime les livres des records et il pourrait disputer son cinquième mondial et rejoindre, ainsi co-détenir le record du nombre de Coupes du Monde jouées. D'ailleurs, petit moment quiz. Il y a trois joueurs qui ont d'ores et déjà disputé trois Coupes du Monde. Saurez-vous les retrouver?
Ah, ceux qui ont déjà disputé trois.
Cinq Coupes du Monde, pardon. Trois joueurs à avoir disputé cinq Coupes du Monde.
Pelé?
Non. Alors, je vais vous donner, il y a un milieu de terrain, un défenseur et un gardien.
Dessaïef.
Le gardien, je dirais Dinotzov.
Non plus. Le gardien est très difficile à trouver.
D'accord.
Je vais vous mettre.
Un Colombien, un truc comme ça?
Non, pas loin, un peu plus au nord, un Mexicain. Il s'appelait Antonio Carvajal, le gardien de l'équipe du Mexique qui a joué les Coupes du Monde de 50 à 66.
D'accord.
Les deux autres joueurs, il y en a un qui était encore présent à la Coupe du Monde 2018, qui a fait une.
Matheus.
Il y a Matheus, exactement. Lothar Matheus, qui a fait de 82 à 98.
J'aurais jamais trouvé.
Et le troisième joueur, c'est aussi un Mexicain, tiens.
Matko Matheus.
Non, comme Carvajal, un défenseur central.
Valderrama, c'est pas ça.
Non, Colombien.
Avec une queue de cheval.
Ah oui, mais je le vois.
Il a joué à Monaco avant d'aller au Barça.
Je le vois, mais je ne sais plus de
son. Rafael Márquez.
Rafael Márquez.
J'aurais pas retrouvé, mais.
Et donc Ronaldo
pourrait
bien. Belle
transition pour aller vers le motocyclisme avec Márquez.
Exactement, Rafael Márquez. Exactement.
C'est un métier. Bravo.
Un peu Pelé, il en a fait 4.
Il en a fait 4. Ouais.
66.
Il a fait 58, 62, 66 et 70. Ouais. Même si en 62 et 66,
oui,
il est parti sous, avec son bras sous l'épaule. Donc voilà pour le Portugal qui devra donc disputer les barrages. Les autres qualifiés, c'est l'Espagne, la Croatie, l'Allemagne et le Danemark. Ce soir, on a...
Avec la sympathie pour le Danemark encore.
Hein, ouais, ouais, et puis ils ont vraiment écrasé leur groupe. C'est chouette de les voir poursuivre sur cette belle lancée. Ce soir, Israël joue contre les îles Féroé. Comme je le disais ce matin, ça pourra leur donner la possibilité de finir troisième du groupe. S'ils gagnent, ce sera déjà ça. Petite particularité, vous savez que les barrages, il y a donc des barrages. Il y avait 10 groupes de qualification, mais il y a 12 équipes barragistes. Donc il a fallu trouver deux autres équipes qui seront qualifiées pour les barrages. Deux équipes issues
du CONCACAF.
Non, de la Ligue des Nations en fait. Ils ont pris les deux vainqueurs de groupe. C'est compliqué, attention. Hein. Voilà. Deux vainqueurs de groupe qui ne seraient pas déjà qualifiés ou barragistes via la voie des qualifications. Ce qui
Parce
fait que
les quatre qui ont participé au tour final sont déjà qualifiés. Voilà.
Exactement. Sauf, enfin, et si l'Italie réussit, se fait dépasser par la Suisse, elle sera barragiste. Donc effectivement, ça tombe sur, pour l'instant, une équipe est sûre, c'est l'Autriche. L'Autriche qui va finir peut-être quatrième de son groupe de qualification, ça laisse quand même réfléchir. Ils pourraient aller à la Coupe du Monde en ayant fini quatrième de leur groupe de qualif. Et l'autre équipe, ce sera soit le Pays de Galles, parce qu'il sera qualifié peut-être en tant que le Pays de Galles ou la République tchèque. Tout ça, voilà, ça donnera lieu à des matchs.
C'est-à-dire que c'est un match en jeu demain pour le Pays de Galles?
Bien sûr.
Oui, bah non, même
pas.
Si, en fait, c'est en jeu parce qu'il ne serait pas tête de série s'il finissait pas dans les meilleurs deuxièmes.
D'un autre côté, je pense que n'importe qui rencontre la Belgique aujourd'hui, c'est un match en jeu.
Ouais.
Dans le sens où c'est quand même une belle carte de visite de battre une des meilleures équipes du monde.
Il faut
pas se voiler la face.
La meilleure.
Le numéro 1 mondial.
Il l'a dit au début de l'émission.
Je l'ai dit. Je voudrais juste revenir sur une équipe. Bon, l'Angleterre n'est pas encore qualifiée, mais ça va se jouer. Peut-être qu'on aura même le temps de vous annoncer. Le match commence dans 2 minutes. Ils jouent à Saint-Marin. Ils sont à égalité de points avec les Polonais. Donc, a priori.
Il n'y a plus de petites équipes.
Oui, mais là, quand même. Non, j'aimerais revenir sur le cas des Pays-Bas. Les Pays-Bas
se sont. Ça fait plaisir de dire ça.
Sabordés. Enfin, attention, parce qu'on est tous la petite équipe de quelqu'un.
On est bien d'accord.
Les Pays-Bas se sont sabordés. Il y a pas d'autre. Ils ne sont pas éliminés encore, hein, mais ils pourraient tout perdre alors qu'à 5 minutes près, ils étaient qualifiés. Ils pourraient regretter amèrement leur match de samedi. Au Monténégro, ils ont laissé filer une avance de 2 buts et une victoire qui leur aurait offert la qualification directe. Ils sont aujourd'hui en position de tout perdre puisqu'ils ont 20 points. Ils vont jouer la Norvège, qui est troisième avec 18 points. Et entre les deux, il y a la Turquie qui a 18 points, qui va jouer Monténégro.
Il faut jouer la Norvège. Hein.
Exactement.
Donc, sans Haaland.
Sans Haaland. Mais une défaite face à la Norvège conjuguée à une victoire de la Turquie. Et les Pays-Bas passeraient à la trappe parce qu'eux, ils sont pas dans le... La Ligue des Nations leur a pas été favorable. Ils sont pas parmi les équipes qui peuvent être repêchées.
Bien.
Donc voilà, écoutez, on a fait le tour de cette qualification de ces matchs.
On est déjà fatigué avant que le tournoi commence, t'imagines ? Avec le règlement, mais c'est violent, quoi.
J'ai une définition, il paraît qu'il y a des sages qui sont penchés sur le règlement, le mode de qualification. Et tout. Ils sont tellement penchés, ils sont cognés la tête.
C'est vrai qu'il fallait être... avec les têtes de série en plus, c'est assez compliqué. Passons au sport mécanique, et je vous propose qu'on commence par la Formule 1. Et ensuite, on finira par un hommage à qui de droit ? À Valentino Rossi. On commence par la Formule 1 avec un Grand Prix super, super excitant hier. Ouais. C'était pas le Grand Prix du Brésil, c'était le premier Grand Prix de Sao Paulo. Ils ont renommé le machin.
Tout à fait.
C'était sur le même circuit. Hein, c'est
absolument, Interlagos.
Avec les S de Senna, avec la montée, le virage numéro 12, tout ce que vous voulez, un vrai régal.
Surtout le numéro 4.
Ouais,
le 12, c'est lui, c'est qui conditionne la ligne droite.
La ligne droite, voilà.
Le virage 4 après le S.
Attends, je note pour mon loto. Le 4, le 12.
Mais quel grand prix et quelle magnifique démonstration de Lewis Hamilton qui a remonté 25 places. C'est un petit
surtout
peu abscon.
C'est ce que j'allais te dire. C'était pas seulement un beau Grand Prix, c'était un week-end juste magique. Et c'est pas que pour Senna que je dis ça. Parce que on sait que les gens qui ne le savent pas vont l'apprendre. Et sinon, tous ceux qui aiment Hamilton comme moi le savent. C'est vraiment son idole de toujours. C'était Ayrton Senna.
Et donc, il porte encore son casque. Non,
il avait mis hier un casque avec les couleurs du Brésil.
Il me semble qu'au début de sa carrière, en tout cas, il avait
toujours
un casque jaune et vert comme celui de Senna.
Il a toujours rendu hommage à son idole. Et on va un petit peu resituer le contexte, si tu veux bien.
Ouais.
On va résumer.
Oui, parce qu'il y a une... ce Grand Prix-là faisait partie
des
de
trois sur l'année où il y a des courses sprint. Alors,
je m'explique. Il y en aura six l'an prochain, mais je veux bien que tu nous expliques.
Alors, généralement, les Grands Prix se déroulent le vendredi, le samedi et le dimanche. Le vendredi, c'est dévolu aux essais libres, en règle générale, parfois même le jeudi. Le samedi, c'est les essais qualifs. Enfin, il y a des essais libres le matin, les essais qualifs l'après-midi, qui se jouent en Q1, Q2, Q3. Le but du jeu, il y a 20 voitures ou 22 voitures au départ. La Q1, il faut se mettre dans les 16 premiers. La Q2, il faut rester dans les 10 premiers pour pouvoir accéder à la Q3. Et là, les pilotes se battent pour définir le départ, la grille de départ. À savoir que c'est dans la Q2 que c'est le temps qu'on aura réalisé en Q2 qui va définir les pneus qu'on va devoir utiliser au départ le lendemain.
Ouais, parce que la Formule 1 est devenue plus compliquée qu'elle ne l'était avant et beaucoup plus stratégique, ce qui apporte un intérêt.
J'ai une question de profane. Combien de tours ils font en qualification ?
En qualification, ce n'est pas au niveau du nombre de tours, c'est au niveau du
meilleur
temps.
Sur une fenêtre pendant une heure.
Tu as 15 minutes, je crois que c'est 15 ou 20 minutes pour la Q3, et puis tu as 15 minutes pour la Q2 et 12 minutes ou 15 minutes pour la Q3.
On prend le meilleur temps.
Et sur tous ces temps-là, tu te fais, sur 10 minutes, tu n'as pas le temps, tu fais un run parce qu'il faut savoir qu'il y a un hot lap. Qu'est-ce qu'on appelle hot lap ? C'est tu sors des stands, tu chauffes tes pneus avant de passer la ligne, de faire un tour révolu pour pouvoir avoir un temps correct. Et puis, tu as le in-lap qui est, une fois que tu as passé la ligne et que ton temps a été validé, tu dois refaire un tour avant de rentrer au stand, évidemment. On ne fait pas demi-tour sur la piste, évidemment. Donc, ça leur prend chaque fois.
Il y en a qui ont essayé.
Ils ont eu des problèmes.
Il y a eu des problèmes.
et pas que, malheureusement.
Au Japon je pense.
Ah, tu m'as fait peur.
Sur la marche arrière.
Il avait moyen.
Avec Prost, quand il s'était accroché, il avait voulu repartir. Il nous disait...
Ah non, mais ça, ils essayent toujours de sortir. Ça, c'est clair.
Non, pardon, on t'a interrompu. Cette course sprint, alors.
Pas de souci. Et là, depuis cette année, il y a trois courses. Il y en avait une à Silverstone, je pense. La première, j'ai complètement zappé, et où il y a une course sprint. Alors, comment ça se passe ? Le vendredi, vous avez des essais officiels qui vont vous donner une grille de départ pour une course sprint du samedi. Et le samedi après-midi, ou le samedi soir pour le moment, puisque décalage oblige, c'est en soirée pour nous, la course sprint, c'est une course qui se court sur un tiers de la distance d'un Grand Prix, plus ou moins une demi-heure, trois quarts d'heure, on va dire, à tout péter. Et donc, le résultat de cette course va définir la grille de départ du lendemain du Grand Prix lui-même. Ce qui veut dire que tu as deux séances qualifs. Tu as la séance qualif pour la course sprint. Prenons un exemple. Ce n'est pas arrivé cette année, il faut le saluer, mais ça peut arriver et ça va immanquablement arriver puisqu'il y aura 6 la saison prochaine. Tu peux très bien avoir réalisé le meilleur temps, partir en pôle de ta course sprint, te viander au premier virage et partir ton Grand Prix alors que tu es le meilleur, tout au fond de grille pour le Grand Prix pour lequel les points comptent. à savoir que les trois premiers marquent aussi des points dans la course sprint,
mais on va pas.
Mais c'est 3, 2 et 1 point, donc bon. C'est un petit peu peanuts. Donc voilà pour le décor qui est planté pour ce Grand Prix d'Interlagos et de Sao Paulo. Et puis Hamilton met tout le monde d'accord le vendredi avec Verstappen à côté de lui, Bottas 3 et Perez 4.
Petite précision, il a changé de bloc moteur.
Oui, tout à fait. Donc au départ, alors il faut savoir que toutes les écuries ont droit, je pense, à 3 moteurs légaux, j'ai envie de dire, pendant la saison, qui couvre quand même cette année, je crois que c'est 22 Grands Prix, quelque chose comme ça. Et donc, vous pouvez en utiliser plus, mais si vous devez, chaque fois que vous devez utiliser ou un bloc moteur, ou une unité centrale électrique, ou etc., tout ça, ça coûte des pénalités. Pas du tout d'argent, mais de place sur la grille de départ. Et donc Hamilton, la Mercedes avait choisi l'option de changer de moteur pour les 4 derniers Grands Prix, dont celui de Sao Paulo. Et donc ça infligeait à Hamilton une pénalité, quoi qu'il arrive, de 5 places sur la grille
même
de départ.
Même s'il faisait la pole, même s'il gagnait la course sprint,
il serait parti 6e.
C'est un fameux pari alors.
Verstappen a connu ça aussi.
Là où la stratégie rentre en compte, parce qu'ils le font généralement en connaissant les spécificités du circuit, en se disant...
Par rapport à leur valeur propre,
à leur valeur, etc. Il vaut mieux que je le fasse à ce moment-là, plutôt que sur un autre Grand Prix.
C'est devenu aussi très stratégique. Ouais, il faut savoir qu'il n'y a aucun pilote qui est mauvais, pour les profanes que nous sommes, ils sont tous bons, mais vous avez 2 pilotes exceptionnels en ce moment. Et c'est bon de le souligner qu'il y a quand même bientôt 3 l'année prochaine avec Russell qui va arriver. Et ce sera, on en parlera.
Il y a 4 pilotes exceptionnels.
Oui, il y a aussi Leclerc.
Vettel aussi, mais il a une charrette.
Vettel est sur le retour, je dirais. Oui, mais c'est plus que c'était. J'ai envie de dire, Mais par contre, en tant qu'homme, il a super bien évolué, je suis d'accord avec toi. Mais tu as... Verstappen et Hamilton qui sont vraiment au-dessus du lot à tout point de vue. Je veux dire, au niveau pilotage, c'est un poème, c'est vraiment magique à regarder.
Ouais,
du point de vue des tempéraments, ils sont diamétralement différents, mais ils font vibrer les foules et ça, hier, c'était exceptionnel.
Ouais.
J'y reviendrai, mais pendant ce Grand Prix, il y a eu des dépassements et quand l'un dépassait l'autre, c'était la même bronca partout.
C'est marrant que tu dis ça parce que je me faisais la réflexion justement que parfois on entendait les bruits des moteurs sont tellement puissants qu'on a du mal à distinguer l'ambiance. Et là, par contre, c'était exceptionnel. Vraiment un stade de foot en fusion qui hurlait à chaque fois qu'il y avait un beau dépassement.
En fait, il faut savoir une chose.
Ouais.
Oui, en plus. Mais il faut savoir une chose, c'est que d'un certain point de vue, Hamilton n'est pas aimé, pas du tout pour ses qualités ou non-qualités de pilote, ça on y reviendra, c'est par son style de vie, très people, très glamour, etc. Et les gens, moi ça m'insupporte complètement, on lui reproche d'être trop visible au bras ou dans les soirées un petit peu mondaines. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Moi, je le regarde pour le voir piloter des bagnoles.
On aurait fait pareil.
Et gagne des grands prix. Mais bien sûr, je vois pas où est le souci. Au départ, il faut savoir que.
Tant qu'il performe en plus.
Mais voilà. Tous les pilotes, et on peut faire un parallèle avec le foot, ont une vie d'asset, mais vraiment qui leur est imposée. Et, au départ, Toto Wolff, qui est le team principal de Mercedes, n'était pas du tout d'accord avec la façon de vivre d'Hamilton. Mais force est de constater que le mec, il revient peut-être d'une soirée du bout du monde, parce qu'on le voyait d'une part aux États-Unis, le lendemain en Australie, c'était un globe-trotteur incroyable. Mais il se mettait dans le baquet, il oubliait tout, il faisait les meilleurs temps. Et je ne parle pas par rapport aux autres, parce qu'on dit qu'il a la meilleure voiture, mais il a la même voiture que son coéquipier.
Et il lui colle ce qu'il faut.
Voilà. Et c'est arrivé qu'une seule fois.
Et alors, pour revenir sur ce Grand Prix passionnant, Hamilton, il démarre...
Il se passe les premiers essais le vendredi. Il est premier haut la main. Par contre, la FIA constate qu'il y a un défaut à son DRS et l'aileron arrière. On parle de moins de 2 dixièmes de millimètre. Donc, il est disqualifié. Donc, il doit partir pour la course sprint 20e et dernier. Il part 20e et dernier. C'est une course qui dure 21 tours. Il termine 5e, quoi. Voilà.
Mais il a remonté 15 places en 20 tours.
Et proprement, sans mettre personne au bac. Incroyable. Donc, il termine 5e. Total, il part 10e, puisqu'il a 5 places de pénalité.
Parce qu'il a eu 2 pénalités dans le week-end.
Et hier, départ de la course, Verstappen forcément profite de sa rétrogradation, j'y arriverai, d'Hamilton pour passer en pole, évidemment. Et après trois tours, Hamilton est déjà dixième, puis neuvième, puis huitième. Et je pense que même pas au tir de la course, oui, il est deuxième derrière. Il faut dire que, et c'est le jeu d'équipe, oui, Bottas l'a laissé passer, évidemment. Mais enfin, il a fait une course hallucinante. Ah, oui. Et j'ai lu dans le journal, parce que c'est marrant, et je me faisais la réflexion en regardant ce Grand Prix passionnant hier. Je me dis, mais c'est du Sénat, quoi. C'est du Sénat, mais de la grande époque. À part qu'il manquait la pluie, parce que Sénat, ouais, sa légende, c'était écrit sous la pluie. Mais... il est revenu comme un avion sur les Red Bull. Et puis, on a eu cette bagarre épique avec Max, qui, pour une fois, s'est montré, je vais dire, sport limite, mais sport.
On oui, parce que Verstappen,
il l'a tassé.
Il a son caractère, il a ses défauts. Changer de trajectoire au milieu de la ligne droite, ce qui est des petits zigzags, ce qui n'est pas tout à fait autorisé. Il peut tasser son adversaire quand il essaie de le dépasser. Et il y a eu un moment où il a super bien résisté. Ouais. Là aussi, il y a deux lectures à avoir. Il a viré un peu large Verstappen au moment où il était attaqué.
Bah, il a fermé la porte, il a obligé Hamilton de sortir de limite, ce qu'il a fait lui aussi d'ailleurs. Après, la FIA a dit pas de sanctions et on ne va pas aller plus loin. Et comme je te disais ce matin, il y aurait eu un mur, ils étaient tous les deux au mur, et ça aurait avantagé Verstappen, puisqu'il a des points d'avance. Il faut savoir qu'il avait 13 points d'avance. Donc, ouais, pour Verstappen, demain, aucun des deux ne finit aucune des dernières courses.
Il est champion du monde, c'est ça.
Donc voilà.
C'est comme le Portugal-Serbie.
Ben oui, si on veut, d'une certaine manière.
C'est quoi le nom de l'arbitre?
L'intérêt du truc, c'est de voir que Verstappen s'est un petit peu calmé, et je termine juste ce que je te disais en disant, le public adore Hamilton et le déteste pour les mêmes raisons, mais comme pilote, il est exceptionnel. Verstappen draine des foules, mais incroyable, derrière sa personnalité. D'abord, il a commencé à rouler en Formule 1, il n'avait même pas encore son permis de conduire.
C'est ça, c'est incroyable.
C'est le fils de on aime, on n'aime pas, Jos Verstappen, c'est pas ma tasse de thé, je t'avoue, il est d'une arrogance
hollandaise.
Oui, tu m'enlèves les mots de la bouche. J'ai l'impression que Verstappen est en train
pas un si grand pilote que ça.
Non, pas du tout. Mais son fils, par contre, lui, c'est le touch of class, il faut lui laisser ça, c'est un très très grand pilote. Je pense que la relève est assurée. Il faudra voir comment il va se battre avec des Leclerc, avec des Russell qui vont arriver. Mais il a un talent mais incroyable. Et
Roy
surtout,
Nissany aussi, le pote. Non, ouais. L'Israélien.
Et surtout, Max Verstappen commence à acquérir ce qui lui manquait le plus, c'est la maturité. Il arrive à faire ce qu'Hamilton a mis peut-être même plus de temps que lui à acquérir. Il commence à courir avec sa tête plus qu'avec son talent. Ce qu'Hamilton fait maintenant, mais il a mis pas mal de temps à le faire. Verstappen maintenant, on l'a vu hier, il était deuxième, il savait qu'il a pris no risk. Voilà, tranquille, je ramène la voiture, j'ai perdu 8 points, ok, très bien. Et il a commencé à la jouer, moi je ne l'ai pas du tout aimé, c'était à Monza quand il est monté sur la voiture d'Hamilton, parce que pour moi c'était anti-sportif. Enfin bon, c'est ma lecture à moi, je suis fan d'Hamilton, tu le sais. Mais là, pour le coup, j'ai eu très peur hier quand
il y a eu le dépassement.
Et puis je me suis dit, ok, il a... Hamilton est vite, mais Verstappen n'a pas été trop loin dans le hard. Et il faut lui laisser ça. Et donc, on a vu pour les amoureux de la Formule 1, et même ceux qui ne la connaissaient pas et qui ont regardé le Grand Prix hier, je pense que c'était une propagande incroyable
Pour la Formule 1. 13 points d'avance pour Verstappen. Il reste 3 Grands Prix, les 3 Grands Prix qui se joueront dans le golf.
Toujours premier et deuxième. Il y a 8 points d'écart entre le premier et le deuxième. Donc, si Hamilton gagne les 3 derniers Grands Prix, il est champion du monde, quoi qu'il arrive.
Oui, il n'y a plus de course sprint, il n'y a plus rien. On en reste là pour la Formule 1, il nous reste 2 minutes qui vont être...
A il dottore.
A il dottore, Valentino Rossi, pour ceux qui suivent la moto, on va rien leur apprendre.
C'est pas lui qui était meilleur buteur de la Coupe du
Monde ? Si, en 82. Bah lui, et non, lui c'est Valentino, c'est pas Paolo, 42 ans, Valentino Rossi, 26 saisons de championnat du monde de moto.
Incroyable.
Il a disputé hier son tout dernier Grand Prix, il a terminé 10e de la course, mais c'était pas le plus important.
C'était le mieux qu'il pouvait espérer.
Ouais, il a fait une belle course, en plus. Il a pris 432 départs de course, 89 victoires, 199 podiums, rien qu'en en MotoGP. Mais c'est surtout, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais ça a été un talent unique et qui a inspiré tout le monde. Et c'est ce qu'on se disait, même si vous n'êtes pas fan de moto.
Comme moi.
Comme toi.
Ouais, pareil, je te disais ça ce matin. Ouais.
Ça inspire le respect, quoi.
Exactement.
Puis la personnalité, le gars, il a une bouille.
Mais moi, c'est pour lui que j'ai commencé à regarder le MotoGP.
Ah, ouais, c'est vrai.
En fonction de lui.
Et il a été applaudi, c'était vraiment des belles scènes de respect de la part de tout le paddock, de tout le que ce soit ses coéquipiers, ses adversaires, les mécanos des autres équipes, tout le monde était vraiment ravi de le voir comme ça. Voilà, c'était une...
Chapeau l'artiste.
Bye bye il dottore. Grazie per...
Tutto.
Per, sì, le spettacolo.
Tutti aussi.
Mais dis donc, il y avait tout le monde. Voilà, j'en perds ma voix. Il est temps de conclure. Merci à toi, Henri. Merci à toi, Didier.
Avec plaisir.
Merci, Sam. Merci,
bien
Didier.
Bien plaisir de passer ce lundi soir avec vous.
La semaine prochaine, vraisemblablement. Hein.
Et on à la semaine là. Prochaine, on recommencera à mettre le bleu de chauffe pour la Ligue, là. On prend le football sérieux, quoi.
Pro League.
Le football de club.
Ouais.
Allez, bye-bye. Et à la semaine prochaine.
Ciao.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé. Oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant. Et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes, quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
M'approche d'elle, aucun doute, elle s'en inaccessible comme une hirondelle. Je calcule dans ma tête, dopé à l'effet de percée. Quand même la fête, le fantasme qui peut distraire. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Merci mon Dieu, mais je tire un trait sur cet aveu. La belle demoiselle disparaît dans l'allée. Sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
Belle demoiselle en or qui se presse dans la lice. Sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer.
J'ose pas m'emballer.
Jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle
parce que des wow. Faut faire la monnaie, faire très très vite. Des sens de tout niquer rétrécisse. Mais tu t'emballes et t'es intrépide. Tu ne veux jamais faire comme les autres. Mais des fois tu le fais pour tuer le time. Des petits bails, un peu de détails. Même si tu sais que tu vaux mieux que ça. Négro t'es spécial. Négro t'es la suite. Qui peut tout changer, qui peut mettre les moves à la mode. Que des niques ta mère. Très peu pour toi les diamants. Donc oh, t'es tout seul dans le Viano. Bien sûr que t'as le mort, bien sûr que ça va pas mentalement. Bien sûr que t'es plus le même, ils savent pas de quoi t'es capable. Mais moi, I know que t'es space, t'es différent, toi t'es spécial.
Hey. Spécial.
Toujours méfiant devant un blanc cache. Premier feu fit flingue dans le local. Rec par PLK, 10 ans à l'occasion. Vision, hélico, longue et la vocale. Mensonge sur la langue de l'avocat. Perdre l'envie de l'avenir sur un claquage. Perdre la vie sur un plaquage. Que deviendront nos types? Même moi j'ai pas de bon diplôme. Pour comprendre leur mot diplôme. Lis le monde diplôme et le bon diplôme. Un frère aide un frère quand il peut. Je laisse ouvert la fenêtre quand il pleut. On séchera sur la moquette comme des vieux chiens mouillés au coin du feu. Se chamailler, se battre. Ne jamais les décevoir. Ceux avec qui je passais l'été sous le bat. Les seuls qui m'ont prêté des vrais se battent quand c'était spécial.
Docteur, désolé de vous déranger, mais il y a encore un type qui a essayé de se suicider.
Bah, il s'est mis une balle dans la tête, il a un énorme trou. Je sais pas quoi faire. Je sors le défibrillateur ?
Oui.
D'accord, j'essaie de le ramener ici. Mon docteur, ça fonctionne pas, là. Qu'est-ce qu'on fait ?
Ne vous inquiétez pas. Il est juste dans une phase de coma profond. Tout va bien se passer. Allez.
Un, deux...
Judaïka, 90.2 FM. Yo, tell me what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna
she got G like MC, you liked it on a easy V, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine it all around, slam your body down and whine it all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give, taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my
sont dérisoires. sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Je voulais quand même te dire merci pour tout le mal qu'on s'est pas dit. Certains rigolent déjà, je m'en fous, je les aimais pas. On avait l'air trop bien, y en a qui supportent pas. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je te l'ai trop dit, je te le dis quand même. Je t'aime.
She get a shot of whiskey, she know how to throw it back. She turned up for Elvis Presley, told the DJ throw it back. She look better every Thursday, she don't have to throw it back. Shouty got me catching feelings, I just hope she throw it back. Throw it back, drop it low, you can blame it on the jack. Slow it down, girl, I'm tryna make it last. If you sexy and you know it, make it clap. Throw it back.
Throw it on back. Nothing says summer like the way she make me feel. A tall glass, a natural woman. I can tell that you keep it real. A great light, she give it to you. Gotta get it before it turn red. High on a flame, I barely know her name, but I'm damn sure willing to bet.
If she get a shot of whiskey, she know how to throw it back. She turn up for Elvis Presley, told the DJ. Throw it back.
Drop it low, you can blame it on the jack. Slow it down, girl, I'm tryna make it last. If you sexy and you know it, make it clap. Throw it.
Gotta thank Jesus, making it peaches. Georgia Bulldog got me SEC sick. She on that way, and I'm deep in tryna buy another round.
Throw it back.
Drop it low, you can blame it on the jack. Slow it down, girl, I'm tryna make it last. If you sexy and you know it, make it clap. Throw it.
If you sexy and you know it, make it clap. Throw it back.
Drop it low, you can blame it.
Découvrez la valeur ajoutée d'un payroll advisor personnel. Rendez-vous sur groupes.be. Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Vous êtes une petite ou une grande entreprise? Vous êtes une association? Vous désirez faire de la publicité sur notre antenne ou nos réseaux sociaux afin d'accroître votre visibilité?
Vous avez dès lors votre place sur Radio Judaïka. Appelez-nous au 02 648 18 59 ou envoyez-nous un email à secrétariat@radiojudaïka.be. Nous étudierons ensemble votre budget afin de trouver la meilleure solution.
Radio Judaïka, depuis 40 ans, la radio de la communauté juive et de ses amis.
Salut, c'est Amir. Je vous donne rendez-vous le jeudi 18 novembre à Bruxelles pour une soirée exceptionnelle au profit des secouristes du Magen David Adom. Je suis heureux de participer à cet événement et j'espère vous y retrouver très nombreux.
Enfin, Émilie, on peut se retrouver pour notre soirée de gala annuelle. Rejoignez-nous le 18 novembre à l'Acte 3 avec, entre autres, Amir pour une soirée inoubliable. Les places sont à 120€ et pour toute réservation, appelez-nous au 02 318 12 48 ou envoyez-nous un email à info@mda-be.org.
Nous vous attendons très nombreux pour une magnifique soirée placée sous le signe de la vie et de la fête. Tous nos secouristes en Israël comptent sur vous. Julie, rendez-vous le 18 novembre.
Évidemment.
Chérie, j'ai réservé une grande table pour ton anniversaire dans un restaurant méditerranéen comme tu aimes bien.
Mais chérie, maintenant il y a Grill Tov. C'est un restaurant de grillades aux spécialités libanaises, grecques, marocaines, israéliennes et dorénavant askénazes aussi. Et en plus, c'est cachère.
Grill Tov, c'est l'adresse pour vos repas intimes, anniversaires, fêtes, événements. Et ça se trouve au 522 avenue Bruckmann à Uccle. Réservation préférable au 02 768 23 08.
Sur Bouquet, besoin d'aide? La solution? Naki et ses 430 antennes ménagères. La référence des titres-services du nettoyage et des préparations des repas. Naki, à partir de 7,65€ de l'heure. Naki pour votre confort et en toute confiance. Votre bien-être? Naki et ses aides ménagères à votre service. Téléphone 0485 21 0000. 0485 21 0000.
Elle fait salle comble et ses chroniques radio sont un succès en France.
Elle est belle, elle est drôle, elle est intelligente, elle écrit elle-même ses textes.
Judaïka vous propose la première scène belge de l'humoriste Sandrine Saroche au Centre culturel d'Auderghem.
Je vous présente Sandrine qui nous vient de Toulon. Tu vois la Côte d'Azur, les beaux bateaux, les milliardaires? Juste avant.
En raison des événements liés au coronavirus, le spectacle a été reporté au 10 février 2022 à 20h. Infos et réservations sur radiojudaïka.be ou appelez le 02 648 18 59.
Depuis que je suis à Bruxelles, je revis.
Judaïka 90.2 FM.
Judaïka. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be.
Qu'est-ce qui pourrait sauver
You told me you love me. Those are the back of the meaning. Not to burn everything that I want, just to come back like a phoenix. A phoenix. You've been worried about me. The tornado inside, I've been complicated. Take a second to show me how to burn in her eyes. I could swear I'm changing. I wasn't very happy when you met me, baby boy. Back, I don't mean it. I had to burn everything that I want just to come back like a phoenix. A phoenix. I know I haven't called back, but I'm building it up slowly, baby, surely. You're the first one I contact. When I feel good enough, you don't have to worry. I wasn't very happy when you met me, baby boy. You told me you loved me. I said it back, I didn't mean it. I had to burn everything that I was just to come back like a phoenix. You told me you loved me. Back, I don't mean it. I had to burn everything that I was just to come back like a phoenix.
I thought I met you when I came in this relationship. But all the roses in the world would only fuel my rage. And now you're wounded from the blaze. I hope you can forget. And we can rise from the ashes just like a phoenix.
To survive, it's been complicated.